quand cette église se trouve en Turquie. Donc, il n'y avait pas que à l'époque, en Asie, puisque c'est ainsi que l'on appelait la région, que c'est cette église-là. Il y en avait d'autres. Mais en fin de compte, c'est à ces sept-là, représentatives d'une certaine mentalité, que les lettres ont été adressées. Et je vais essayer de poser mes mots, mais bon, c'est quand même important qu'on le partage. Il y avait là, à l'époque, donc ces églises, comme Éphèse, comme Laodicée, et les autres, c'était des villes importantes. Laodicée, par exemple, on comptait environ 150 000 habitants. Les archéologues déterminent le nombre d'habitants en fonction du nombre de places assises dans les amphithéâtres. Une place pour 5 personnes. Donc quand on découvre un amphithéâtre, à Éphèse, je ne sais plus combien il y a de places, eh bien, une place pour 5, et on savait à peu près le nombre d'habitants. Et il y avait certaines de ces villes qui étaient des villes importantes. Les fouilles de Laodicée, elles sont encore en cours. Je suis allé 5 fois en Turquie, les premières fois, on visitait rien sur Laodicée, il n'y avait aucune fouille de fête. Et j'y suis allé il y a 3 ans ou 4 ans maintenant, et les fouilles étaient pas mal avancées, et c'est une cité magnifique. Elle était sur un monticule, et c'est une ville, c'est dans les villes romaines, c'est une des seules cités où on a retrouvé les façades en marbre, pas toutes les façades, mais certaines façades, il y a encore le marbre de fixé sur les monuments. Et je veux dire, c'est très impressionnant. Partout où on va, on voit les ruines, mais il n'y a plus. Les marbres ont été pillés, etc. Mais là, dans les fouilles, ils ont retrouvé donc des marbres qui sont encore fixés. C'est magnifique. Et il y a 3 amphithéâtres à Laodicée, par exemple. Voilà. Donc, ce sont des villes qui sont en Turquie. Il y avait là, donc, des centaines et des centaines de chrétiens. Un homme comme Jean a été le pasteur d'Éphèse. Pas le frère Jean que nous avons au milieu, hein, de nous, là. L'apôtre Jean. Timothée a été aussi un des responsables d'Éphèse. Paul a traversé ce qu'on appelle aujourd'hui l'Anatolie. Donc la grande plaine en Turquie, et on retrouve les ruines des caravansérails où certainement Paul a dû s'arrêter comme les autres voyageurs. Donc il y avait là des centaines de chrétiens, des hommes et des femmes illustres qui ont animé la vie de ces églises. Et aujourd'hui en Turquie, il reste pratiquement plus rien du christianisme. Alors c'est là que je mesure mes propos. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, l'Empire ottoman est arrivé. L'islam a pris la place. Et tout a été balayé. Voilà. Et c'est vrai que on peut toujours parler de l'islam de France, de l'islam modéré, de tout ce qu'on veut. En fin de compte, l'islam, c'est l'islam. L'islam a toujours été une religion de conquête. Nous devons pouvoir prier pour les musulmans, bien sûr, pour qu'ils se convertissent, et des centaines et des centaines se convertissent d'ailleurs. Il y a un magnifique travail qui se fait dans le milieu musulman, soit en Europe, soit à l'étranger, sans problème, mais je veux dire, il faut arrêter de rester enfantin, innocent. Il faut que nous tenions notre place et que nous ayons, eh bien, un rayonnement positif. Donc on en vient à Thyatire. Alors c'est dans l'Apocalypse, bien sûr, et c'est au chapitre 2, au verset 18. Écrit à l'ange de l'église de Thyatire. Voici ce que dit le Fils de Dieu, celui qui a les yeux comme une flamme de feu, et dont les pieds sont semblables à de l'airain ardent. Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton fidèle service, ta constance et tes dernières œuvres plus nombreuses que les premières. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs, pour qu'ils se livrent à la débauche et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Je lui ai donné du temps afin qu'elle se repente, et elle ne veut pas se repentir de sa débauche. Voici, je vais la jeter sur un lit et envoyer une grande tribulation à ceux qui commettent adultère avec elle, à moins qu'ils ne se repentent de leurs œuvres. Je frapperai de mort ses enfants, et toutes les églises connaîtront que je suis celui qui sonde les reins et les cœurs, et je rendrai à chacun de vous selon ses œuvres. À vous, à tous les autres de Thyatire qui ne reçoivent pas cette doctrine et qui n'ont pas connu les profondeurs de Satan, comme il les appelle, je vous dis, je ne mets pas sur vous d'autre fardeau, seulement ce que vous avez, retenez-le jusqu'à ce que je vienne. À celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations, il les pètera avec une verge de fer, on m'en brise les vases d'argile, afin que moi-même, ainsi que moi-même j'en ai reçu le pouvoir de mon Père, et je lui donnerai l'étoile du matin. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Amen. Thyatire, en fin de compte, c'est l'église de la tradition. Dans l'histoire de l'Église, de son départ jusqu'à ce que sera la fin, dans cette fresque, elle marque cette période, eh bien, de la tradition. Et les ruines de la ville de Thyatire se dressent au milieu d'une ville moderne aujourd'hui, qui s'appelle Akizia. En fin de compte, il reste juste quelques pans de murs et un demi-arc de triomphe qui est là, en plein milieu, eh bien, de cette grande ville. En 190 avant Jésus-Christ, cette ville a été conquise par Rome, et c'était une ville qui n'avait pratiquement aucune importance, aucun rayonnement. C'est la plus petite des sept qui sont citées dans le livre de l'Apocalypse. Pourtant, c'est le message le plus long qui lui est adressé. Et dans cette ville, on cultivait une plante dont les racines servaient à la préparation d'une teinture rouge. Et la production d'étoffes teintes en pourpre est exportée dans le monde entier et assure la prospérité de cette ville. Les teinturiers de Thyatire étaient de très gros commerçants. Ils étaient aussi des financiers influents dans toute la région. Et tout ceci vous ramène à Lydie, dont il est question dans le livre des Actes des Apôtres, la marchande de pourpre, qui était originaire de Thyatire. Et nous savons comment le Seigneur lui a ouvert le cœur, comment elle a été attentive à ce que disait l'apôtre Paul, comment elle s'est engagée avec Jésus-Christ. Et cette expérience, elle ne l'a pas faite dans sa ville, elle l'a faite dans la ville de Philippe. Et on peut penser qu'elle était là pour son commerce, pour représenter peut-être une société, et elle devait proposer des beaux vêtements à la colonie romaine, à l'élite de la colonie romaine qui se trouvait donc à Philippe. Et je peux lire simplement peut-être le texte dans le livre des Actes au chapitre 16 et au verset 14. Il est dit, l'une d'elles, nommée Lydie, marchande de pourpre, de la ville de Thyatire, était une femme craignant Dieu, et elle écoutait. Le Seigneur lui ouvrit le cœur pour qu'elle soit attentive à ce que disait Paul. Et lorsqu'elle eut été baptisée avec sa famille, Elle nous fit cette demande, si vous me jugez fidèle au Seigneur, entrez dans ma maison et demeurez-y, et elle nous pressa par ses instances. Une femme qui avait certainement entendu parler du Seigneur, de l'Évangile, qui avait un certain respect pour les choses de Dieu, mais qui n'avait pas eu la plénitude de la connaissance de la vérité. Et là, eh bien, Paul était là, il a cherché un lieu de prière, et il est dit, nous nous assîmes et nous parlâmes aux femmes qui étaient réunies. Il leur a rendu témoignage, et c'est là que le Seigneur a ouvert le cœur de Lydie. Et là, elle a compris. Elle avait la crainte, elle avait le respect, mais elle n'avait pas tout saisi. Et là, elle a compris. Et non seulement elle a compris, mais elle a obéi parce qu'ils l'ont baptisée. Alors, je ne sais pas le temps qu'a duré la préparation au baptême ce jour, mais bon, ils l'ont baptisée. Elle ne savait pas ce que c'était qu'un culte, ni même une réunion d'évangélisation, ni même une réunion de prière, mais c'était bon quand même. Alors, ce n'est pas parce que c'était bon pour Lydie qu'il faut absolument appliquer la même chose à tout le monde. Voilà, il y a aussi des situations qui peuvent être, disons, exceptionnelles. Et ensuite, eh bien, elle a voulu accueillir les serviteurs de Dieu dans sa maison. L'église de Thyatire a connu des débuts prometteurs, et le Seigneur s'adresse à cette église en ces termes, nous l'avons lu, au verset 19, « Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton fidèle service, ta constance et tes dernières œuvres plus nombreuses que les premières. » C'est une sacrée assemblée générale, ça, hein? C'est un sacré rapport moral. Je connais. Et c'est vrai que, comme pour les autres, quand l'expression revient, rien ne peut échapper au regard de Dieu. Dieu connaît. Il connaît ce qui est bien, ce qui n'est pas bien, ce qui est moins bien, il connaît. Il n'y a aucun problème. Et dans le rapport qu'il fait, je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton fidèle service, ta constance, tes dernières œuvres, qui sont plus nombreuses que les premières, donc des gens qui sont en progrès. C'est assez élogieux. Et en fin de compte, c'est en contraste avec les autres églises qui ne reçoivent pas, eh bien, de la part du Seigneur, un tel rapport. À Thyatire, il n'y a pas de sommeil. Il n'y a pas de tiédeur. Il n'y a pas l'abandon du premier amour. Au contraire, il y a une activité débordante, un zèle éprouvé et un zèle approuvé. Elle est en plein boom, en pleine activité. Elle bouillonne de vie. Elle est remplie du Saint-Esprit. Mais l'entête de la lettre indique que rien n'échappe au regard du Seigneur. Je connais. Je connais. Et en fin de compte, il y a quand même un mal très grave qui est cerné dans cette église. Elle est bourrée de qualités, pour employer cette expression, mais il y a quand même un mal qui est cerné dans la vie spirituelle de cette église, et il doit être traité rapidement, et il doit être traité à la racine. Vous pouvez couper une plante, bon, la plante, elle n'y est plus, c'est bien. Et comme vous laissez les racines, eh bien, dans quelque temps, il va y avoir des rejetons qui vont sortir. Et si vous voulez vraiment éradiquer cette plante, il faut aller jusqu'au fond, il faut aller jusqu'à la racine. Hein, les pissenlits, si vous les coupez juste comme ça, il n'y a plus la fleur, il n'y a plus rien. Mais bon, les pissenlits vont repousser. Voilà, il faut aller jusqu'à la racine. Et quel est ce mal? Parce que c'est là qu'il va dire ce que j'ai contre toi. Et le regard de Dieu, il est équilibré. Il est capable de noter ce qui est bien, mais il est aussi capable de noter ce qui est mal. Il est capable de féliciter, de remercier, d'encourager, mais il est capable aussi de dénoncer. Parce que notre Dieu est un Dieu qui est équilibré. Et il faut accepter les félicitations, mais il faut aussi accepter, si c'est le cas, les réprimandes. Parce que dans la mesure où nous acceptons et où nous accueillons la solution, eh bien, nous allons aller plus loin de l'avant. Et qu'est-ce qui se passe à Thyatire ? C'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à la débauche et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Il y a dans l'église de Thyatire une Jézabel. Et ça nous ramène tout de suite à l'Ancien Testament, où nous découvrons aussi une Jézabel. Jézabel qui était la femme du roi Akab. Elle était la fille d'Edbal, roi des Sidoniens, et elle avait entraîné Israël dans l'idolâtrie. Sous le règne d'Akab, 450 prophètes de Baal et 400 prophètes d'Astarté mangeaient à sa table. Elle avait tous les jours 850 personnes à table. Donc ça fait déjà beaucoup de monde, ça fait beaucoup de vaisselle à faire, mais il faut quand même des pièces conséquentes hein, pour accueillir 850 personnes à sa table. Et à la maison du roi, on mangeait pas que des pois chiches. Hein. Voilà, c'était des mets succulents. Et nous savons que cette Jézabel de l'Ancien Testament avait un caractère autoritaire. Elle a même utilisé le sceau royal pour ordonner le meurtre d'un innocent qui s'appelait Naboth. Élie, le prophète Élie, a été terrifié par les menaces de cette femme. On retrouve Élie, qui signifie « celui devant lequel je me tiens ». On retrouve plusieurs passages, Élie se tient devant Dieu, donc ce qui le caractérise, c'est que c'est l'homme qui se tient devant le Seigneur. Du temps de Jézabel, qui avait une influence sur son mari, qui était le roi, eh bien, les croyants ont été persécutés, ont été pourchassés, emprisonnés, exécutés. Et en fin de compte, il restait plus grand monde. Et ils n'avaient pas l'occasion de se rencontrer très souvent. Et nous voyons que le peuple a été fortement influencé par cette femme Jézabel. Au point que là, le peuple clochait des deux côtés. Tout dépend. Il y a des jours, ils se tournaient vers l'Éternel, leur Dieu. Et puis il y a des jours, ils se tournaient vers Baal, ils se tournaient vers Astarté. Baal, c'était un dieu impressionnant, à Palmyre. Bon, le temple de Baal a été détruit, mais avant qu'il ne soit détruit, il était pratiquement intact, et l'emplacement où il y avait la statue du dieu Baal, c'était un emplacement imposant. La statue devait faire 7 à 8 mètres de haut et 3 ou 4 mètres de large. Et les gens venaient donc offrir des sacrifices à Baal. Et on sacrifiait les animaux, et il y avait une esplanade devant la statue où les animaux étaient sacrifiés, et il y avait une rigole qui était là et qui permettait au sang de s'évacuer. Donc ça, c'est à Palmyre, en Syrie, et ça a été dynamité par Daesh il y a quelques semaines. Donc, ces Israélites adoraient cette idole. C'était les deux vedettes, Astarté et Baal. Et un jour, eh bien, le prophète Élie s'est présenté devant tous ces hommes. Et il a parlé au peuple. Et il a dit, eh bien, maintenant, il faut que ça cesse. Si c'est Baal qui est Dieu, eh bien, vous vous tournez vers lui. Et puis, on n'en parle plus. Maintenant, si c'est l'Éternel qui est Dieu, vous vous tournez vers lui. et on n'en parle plus. Vous allez arrêter de clocher des deux côtés. Et je vous propose un marché. Donc c'est ce qu'il a dit au prophète de Baal, 450. Il leur a dit, voilà, on va offrir un sacrifice. Vous, vous offrez un sacrifice à votre Dieu, et moi, j'offre un sacrifice à mon Dieu. Et le Dieu, qui répondra par le feu, qui consumera le sacrifice, c'est celui-là qui sera Dieu. Vous êtes d'accord ? Les prophètes ont dit d'accord. Le peuple a dit d'accord. Et pour les prophètes de Baal, je veux dire, ça semblait, disons, quelque chose de très rapide. Parce que Baal, c'était aussi le dieu de la foudre. Donc le dieu qui répond par le feu, je veux dire, c'était un enfantillage. Hein. Voilà. Donc ils ont préparé l'autel, ils ont mis le taureau sur l'autel, et puis ils ont commencé à invoquer Baal. Et puis il n'y a rien qui s'est produit. Et puis on est arrivé à la fin de la journée, et Élie, ben, il a un petit peu ironisé, il s'est un peu moqué en disant, ouais, peut-être que Baal il est en vacances, peut-être qu'il fait la sieste, peut-être qu'il est sourd, peut-être, ben, vous devrez crier plus fort, voilà. Ma foi, ils ont tout essayé, ils se sont même meurtris, ils se sont fait des blessures sur le corps, et au bout du compte, ben, Baal, il n'a pas répondu. Alors c'est le tour d'Élie. Et Élie, eh bien, il va rétablir l'autel de l'Éternel, il va prendre 12 pierres, les 12 tribus, et il va mettre ça comme il faut, donc le rétablissement d'Israël. Il va mettre les branches, le bois, sur ces pierres, il va creuser un fossé autour de l'autel, il va couper le taureau par morceaux. Il n'était pas obligé, mais il l'a fait. Et ça a aussi une signification, parce que je peux m'offrir, comme dit l'Écriture, offrir votre corps comme un sacrifice saint, vivant, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Mais quand on offre chaque partie de son corps, c'est un peu plus fort. Je peux m'offrir, et je peux dire aussi, Seigneur, prends mes mains. Prends mes pieds, pour que là où je vais conduire mes pas, je sois vraiment dans la voie de la vérité, de la lumière. Prends ma langue, pour que quand je parle, je dise les choses qui te glorifient. Prends mes yeux, pour que je porte pas mes regards sur la femme du voisin, par exemple. En mes oreilles. Fasse attention à ce que j'écoute. Bon, le fait d'offrir son corps, c'est une affaire. L'offrir par petits bouts, je veux dire, c'est vraiment appuyer. Et c'est ce qu'il a fait. Et pour être sûr qu'il n'y aurait pas de supercherie, il a fait arroser tout cela avec de l'eau. C'était imprégné. Donc, il ne pouvait pas y avoir une petite allumette, là, qui... Non. Et il a prié. Alors on va pas regarder ça parce que c'est pas tout à fait notre propos aujourd'hui, mais j'étais dans un endroit où, à la réunion de prière, ça m'a un petit peu fatigué, parce que les quelques personnes qui ont prié, on savait quand ça commençait, mais on savait jamais quand est-ce que ça finissait. Alors, bon, quand ça en finit plus, je veux dire... Alors j'ai, comme je devais prendre la parole après, je leur ai dit, écoutez, j'aimerais simplement vous donner un conseil, c'est de lire la prière d'Élie et de chronométrer combien ça dure. En parlant lentement à la vitesse où je parle, ça dure 20 secondes. Mais quel résultat ! Le feu est tombé, l'eau a été absorbée, le taureau a disparu, le bois aussi, les pierres aussi, et toute l'eau qui était dans ce qui avait été creusé autour, là, la rigole, eh bien, a été aspirée et tout le monde a été confondu. Le peuple a dit l'Éternel est Dieu. Voilà. Et les prophètes ont été exécutés et le lendemain, Jézabel s'est manifestée. Et elle a fait savoir à Élie ce que tu as fait hier au prophète. Moi, je te promets que dès que je mets la main sur toi, je te le fais. Et là, il a pris peur. Parce que Jézabel, c'était pas n'importe qui. Et quand elle disait quelque chose, c'était pas des paroles en l'air. Et Élie a pris peur. Et il est allé sous un genêt. Et là, eh bien, il a demandé au Seigneur de le reprendre. Et le Seigneur ne l'a pas repris. Il n'a pas voulu. Élie avait besoin d'apprendre une leçon. La première, me semble-t-il, c'est qu'on ne se moque jamais des gens. Les gens, on doit les aimer tels qu'ils sont pour leur rendre témoignage de l'amour de Jésus-Christ. Mais on ne se moque pas d'eux. Et Élie s'est moqué des prophètes. « Ouah, votre Dieu, nanani, nanana. » Ouais. Et quand Jézabel a parlé, Élie a pris peur. Dieu lui avait pas demandé de se moquer des prophètes. Et Dieu l'a ramené devant ce qu'il était. Et quand Élie est sous le genêt et qu'il prie, en fin de compte, il se tient pas devant Dieu. Mais il se tient devant lui, devant sa faiblesse, devant son humanité, devant sa fragilité. Et dans le fond, la seule solution, c'est de mourir. Alors il va pas oser se suicider, il préfère... Mais Dieu n'est pas d'accord. Puisque Dieu envoie son ange, avec une cruche d'eau, une galette de pain, l'ange lui dit, « Élie, mange et bois. » Il ouvre un œil, il boit un peu, il mange un peu. « Non, non, mange et bois. » Bon, il mange tout, il boit tout, et il va marcher 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu à Horeb. Et là, il va découvrir une facette de Dieu qu'il n'a jamais connue. Parce que Élie, s'il rend témoignage, comment vous concevez Dieu? Moi, Dieu, c'est les éclairs, c'est le tonnerre, c'est le feu, c'est le tremblement de terre. Parce qu'il avait connu que ça, lui. Mais Dieu ne sait pas que ça. Et à Horeb, il va découvrir, eh bien, le doux zéphyr, la douce brise, le murmure doux et léger, là, dans la fente du rocher. Parce que Dieu, c'est aussi ça. Et nous pouvons faire état de nos expériences. Elles sont vraies, elles sont fondées, mais on n'a pas tout vécu. On n'a pas tout connu. On a connu des facettes de Dieu, mais on n'a peut-être pas connu toutes les facettes de Dieu. Quelques-uns vont dire, moi, Dieu, c'est dans le calme, c'est dans le repos. Ben, vous avez raison. Mais Dieu, c'est aussi dans le feu, dans le vent. D'autres vont dire, moi, Dieu, c'est quand ça bouge, quand ça s'agite. Tu as pas tort. Mais Dieu aussi, c'est dans le calme. Ça dépend des circonstances. Ça dépend des jours. Ça dépend des moments. Ça dépend d'un tas de choses. Dieu, on ne le tient pas par le bout du nez pour lui faire faire nos quatre volontés. Et Élie va faire cette expérience. Donc, Jézabel l'a terrifié. Il y a donc à Thyatire une femme influente qui se dit prophétesse. Elle impose sa spiritualité en se désignant envoyée de Dieu. Elle enseigne et elle séduit sous le couvert de cet enseignement. Et je crois que ce dont nous avons besoin, c'est de demeurer vigilant. Aujourd'hui, hommes ou femmes d'ailleurs, on est, agressé de toutes parts par des prophètes, des prophétesses, des apôtres, etc. Ça pullule, c'est ma foi. C'est comme ça. C'est une mode. Et c'est pas celui qui met sur sa carte de visite qu'il est apôtre, qu'il est véritablement un apôtre. C'est pas celui qui dit je suis prophète ou je suis prophétesse. Moi, j'ai entendu le témoignage d'une femme qui se dit prophétesse. Toute la nuit, le Seigneur est assis sur le bord de son lit, lui caresse le genou. Parfois, moi, je veux bien, hein. Bon. Moi, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a dit, vous savez, moi, Dieu me parle la nuit et je prie toute la nuit. Et de la façon dont il me parlait, c'était, vous êtes un petit pasteur de campagne, là, mais moi, Dieu me parle et toute la nuit, je suis devant Dieu. Alors, une fois, deux fois, trois fois, gentiment, j'ai dit, écoutez, monsieur, moi, j'ai appris depuis tout petit que la nuit, c'est fait pour dormir et le jour, c'est fait pour travailler. Parce que le jour, il faisait rien, hein. Voilà. Alors, il y en a, ils ont toujours une spiritualité, je ne sais. L'Écriture me dit que tes progrès soient évidents pour tous. C'est ce que Paul conseille à Timothée. Et nous n'allons pas chercher à être prophète, à être apôtre, à être je ne sais quoi. Nous allons simplement essayer de nous attacher à la parole. Et Paul dira aux Corinthiens, ce n'est pas celui qui se recommande lui-même qui est approuvé. Ce n'est pas en faisant valoir mes titres, eh bien, que obligatoirement les gens vont tomber en extase. C'est pas ça qui est important. C'est dans ma marche quotidienne, dans le rayonnement, eh bien, qui peut être le mien. Et cette femme, eh bien, avait une terrible influence. Et je crois qu'il faut veiller à ce que nous ne subissions pas je ne sais quelle influence dans le monde chrétien, homme ou femme, qui prétendrait je ne sais quoi. Je crois que l'influence sur laquelle nous devons nous soumettre, c'est celle de la parole. Et la parole, eh bien, elle traverse toutes les générations. Il n'y a rien à ajouter, il n'y a rien de nouveau, bien sûr, il n'y a rien à retrancher, mais c'est cette parole. Et quand un homme ou une femme, eh bien, vide la parole, proclame la parole, partage la parole. Je veux dire, ça se reconnaît tout de suite, et le titre, ben, c'est un petit peu secondaire. Et je crois que il faut que nous puissions veiller à cela. Et à Thyatire, ils avaient bien des qualités, mais il y avait ce problème. Alors, que sera-t-il dit? Eh bien, moi, je te conseille de pouvoir te repentir, de remettre, eh bien, de l'ordre dans tout cela. Je lui ai donné du temps afin qu'elle se repente, mais elle ne veut pas se repentir de sa débauche. Dieu donne toujours une possibilité de remettre les choses en ordre, de rétablir. Dieu n'est pas celui qui condamne comme cela. Il y a toujours un appel à la repentance, à la remise en ordre, afin de pouvoir, eh bien, être rétabli. Et Dieu dira, eh bien, je lui ai donné ce temps-là, mais elle ne veut pas. Autrement dit, en connaissance de cause, elle persiste dans son égarement, dans ses errements. Et là, eh bien, les choses maintenant vont changer, et je vais donc intervenir. Ce que je note, c'est la patience de Dieu pour la repentance. Dieu est patient. Et ça, c'est à retenir. Il y a ce passage dans l'Écriture, c'est le fameux cantique funèbre de David, en parlant de Jonathan et de Saül, comment des héros sont-ils tombés? Un héros, ça tombe pas. Un héros, ça meurt jamais. Un héros, c'est presque mort, mais ça revient à la vie. Un héros, il a le pied dans le vide, mais waouh, d'un coup de rein, il se rétablit, il s'en sort toujours, le héros. Parce que si tel n'est pas le cas, c'est plus un héros. On le suit plus, on s'y attache plus. Et quand David a su que Jonathan et Saül étaient morts, il dit, mais comment se fait-il que des héros soient tombés? Il est complètement stupéfait. Parce que ça semble impensable. Et dans l'histoire de l'Église, il y a des héros qui sont tombés. Mais ils ne sont pas tombés d'un coup d'un seul. Nous, on a vu le moment, l'instant où il y a eu la chute et on a été stupéfait. Mais quand on gratte un petit peu derrière, on se rend compte que la chute, il y avait longtemps. Et Dieu était intervenu plusieurs fois pour tenter de parler à cet homme, à cette femme, et de les ramener, de les rétablir, de les conduire à la repentance, à la remise en ordre. Mais ils ont fait un peu comme Samson, je m'en sortirai comme les autres fois, sauf qu'à un moment donné, il n'y a plus une autre fois. Et c'est là que nous devons veiller à ne pas lasser la patience de Dieu. Celle de l'Ancien Testament survécut 12 ans après la mort de son mari Akab. Et le jour même de sa mort, elle se fardait le visage pour mieux séduire. Mais dans le champ de Jisréel, comme l'avait annoncé le prophète, les chiens vont dévorer sa chair. Elle va périr misérablement. Il y a toujours une possibilité de remise en ordre, mais si nous nous servons des choses saintes pour arriver à nos fins, il ne nous reste plus qu'un terrible châtiment. Celui-ci est public pour servir d'exemple. Jézabel, elle a été dévorée par les chiens, là, sur un terrain vague. Ça a été public pour servir d'avertissement. Et que dit Paul à Timothée ? Ceux qui pêchent, reprends-les devant tous, afin que les autres aussi éprouvent de la crainte. Ceux qui assument des responsabilités dans l'œuvre de Dieu, eh bien, reprends-les devant tous, afin que les autres aussi éprouvent de la crainte. Maintenant, ce que nous constatons, c'est qu'il y en a qui sont fidèles. Et il sera dit, et ce que vous avez, retenez-le jusqu'à ce que je vienne. Alors même si on n'est pas des chrétiens fulgurants, ce que nous avons, ce qu'on a compris, surtout, faut pas le perdre. Faut pas le brader. Faut le garder. Retiens ce que tu as, dit l'Écriture. J'ai peut-être pas beaucoup, mais ce que j'ai, je l'ai. Et je veux pas le perdre. Et si possible, eh bien, je vais essayer de le faire fructifier. Dans l'Ancien Testament, pour revenir à l'histoire d'Élie, quand il prie, il dit, Seigneur, je suis resté moi seul. Ah oui, il avait rencontré personne depuis longtemps. Et il a pensé qu'il était comme le dernier des Mohicans. Je suis moi seul, il n'y a plus que moi qui suis fidèle et qui te sert. Et Dieu va lui dire non. Dans tout le pays, il y en a 7000 qui n'ont pas fléchi le genou devant Baal. Mais la persécution était telle, la violence était telle. Ces gens, ils étaient répartis un petit peu partout. Peut-être qu'à des endroits, ils étaient 2 ou 3 ensemble. Mais beaucoup étaient isolés et en fin de compte, il n'y a que Dieu qui les connaissait. Vous savez, c'est toujours dangereux quand on pense qu'il n'y a que moi. Il n'y a qu'à moi que ça arrive. Ça, c'est pas vrai. Hein. En bien ou en mal, il n'y a pas qu'à moi. Il n'y a pas qu'à nous. Ça arrive aussi à d'autres. Sauf que je ne sais pas. Je ne connais pas. Mais Dieu lui connaît. Et ce qui est important, c'est qu'il me connaisse comme étant celui qui est fidèle. La Bible dit que dans les derniers temps, il viendra des hommes qui ne supporteront plus la saine doctrine. Alors pas la sainte, mais la saine. C'est-à-dire celle qui n'a pas été falsifiée, qui s'est pas fissurée, qui s'est pas gondolée au fil du temps, qui n'a pas été déformée, qui est saine, qui est d'origine. Et quand il est dit, ils ne supporteront plus la saine doctrine. Alors ça s'adresse à qui ça? Est-ce que ça s'adresse aux païens? Certainement. Mais à mon avis, ça s'adresse surtout aux croyants. Parce que les païens, la saine doctrine, ils la connaissent pas. Alors qu'ils ne supportent pas le message de l'évangile. D'accord. Mais quand il est question de saine doctrine, ça s'adresse à ceux qui l'ont connue. Mais qui, au bout d'un moment, ne la supportent plus. Sous prétexte que la société a évolué. Il y a quelques années en arrière, j'étais sur Paris dans un bureau avec un haut responsable de la Fédération protestante de France, et j'étais accompagné de mon collègue Michel Fauré, et on s'entretenait d'un certain sujet qui touche, entre autres, à l'homosexualité. Et le secrétaire général de la FPF de l'époque avait déposé devant la commission Stasi, qui était un député de l'époque, et dans ce qu'il avait dit, il était écrit que dans la situation de la société actuelle, il n'était pas envisageable que l'on puisse avoir des responsables qui soient homosexuels. Alors, j'ai soulevé ce texte et j'ai dit au président, j'ai dit, monsieur le président, si je comprends bien, dans la société actuelle, il n'est pas envisageable. Ce qui pourrait laisser supposer que si la société évolue, on pourrait peut-être l'envisager. Et d'un coup, il regarde sa montre et il me dit, monsieur Denisoux, la réunion devait se terminer à 16h, il est 16h, on arrête là. Ça s'est terminé comme ça. Voilà. Et c'est vrai qu'il y a des gens qui finissent par ne plus supporter la saine doctrine, au prétexte que la société a évolué. Alors il faut se mettre un petit peu à la page. La doctrine de Dieu, c'est la doctrine de Dieu. Et vous savez ce qui se passe aujourd'hui, je veux dire, ça s'est aussi passé hier, hein. Pourquoi l'Empire romain a-t-il disparu? Pourquoi la civilisation grecque a-t-elle disparu? Regardons un peu au niveau des mœurs. Et ça a été une véritable ruine. Et vous savez, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Paul dira à Timothée, nourris des paroles de la foi et de la bonne doctrine. En fin de compte, ce qui doit être notre pain quotidien, c'est la parole. Et on n'est pas là dans une sorte de compétition à celui qui arrivera le premier ou dernier verset du livre de l'Apocalypse, en ayant commencé par la Genèse il y a 15 jours. Il y a peut-être des jours où on va lire l'évangile de Matthieu en entier. Il y a peut-être des jours où on va lire un seul verset. Le problème n'est pas dans une sorte de compétition, le problème c'est de rester quotidiennement au contact de la parole. Et que ça soit une nourriture. Vous pouvez faire le meilleur des plats, et vous n'êtes pas là simplement à prendre des photos, à respirer l'odeur du plat, et puis au revoir et merci. Vous allez dépérir, hein. Il faut bien que vous en mangiez. Il faut bien que les calories, les protéines, etc., qui sont là, puissent entrer dans votre corps et vous donner. Il faut se nourrir. Donc il ne s'agit pas simplement d'avoir un contact avec l'Écriture d'une façon routinière, traditionnelle, pour apaiser sa conscience. Un chrétien qui ne lit pas la Bible, c'est pas un bon chrétien, donc il faut qu'il la lise. Non, il vaut mieux lire 3 versets et puis réfléchir à ce qu'on lit, et avoir un moment de prière sur ce texte, plutôt que de partir dans une sorte de compétition, j'arrivais le premier. Nourrir, se nourrir, pas prendre des photos, mais se nourrir. Nourri des paroles de la foi, de la bonne doctrine. Il sera dit aux premiers disciples qu'il fallait qu'ils s'abstiennent des viandes sacrifiées aux idoles et de la débauche. Et on a pourvoulu leur mettre d'autres fardeaux. Alors aujourd'hui, c'est peut-être pas trop notre problème, ça. Mais à l'époque, c'était un problème. Donc, l'Évangile, c'est pas, disons, quelque chose de pesant. D'ailleurs, il est dit, tout est permis. Donc, c'est pas pesant, hein. Mais tout n'est pas utile. Autrement dit, tout ce qu'on peut pas porter ensemble, en pleine lumière, tout ce qu'on peut pas partager ensemble, en pleine lumière, eh bien, nous le laissons. Non pas parce que c'est interdit, et parce que ça ne contribue pas à notre enrichissement, à notre épanouissement. Parce que on peut pas le faire là, en plein jour. Voilà les choses qui sont un peu douteuses, on les fait pas comme ça en public, hein. On les fait en rasant le mur, on les fait quand la nuit commence à tomber, quand personne nous voit, on regarde, là, voilà. Voilà, parce qu'on n'est pas très, très clean, là. Alors, c'est pas interdit, mais ça m'enrichit pas. Je peux pas le partager librement avec les autres, alors je le laisse. Parce que ça contribue pas à mon enrichissement personnel. Et là, de suite, il y a une promesse, je lui donnerai l'étoile du matin. Et Pierre reprendra un peu l'expression que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Ceci signifie la pleine jouissance de la présence de Christ dans sa vie. Que je conclue, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. C'est Jean qui rapporte cela. Mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Voilà. Et ça, c'est un verset que j'aime beaucoup. Si quelqu'un m'aime, Seigneur, je t'aime. Ouais. Eh bien, si tu m'aimes, tu gardes ma parole. Parce que ça, c'est la preuve que tu m'aimes. Et mon Père l'aimera. Et nous viendrons. Et nous ferons notre demeure chez lui. La première réaction du fait d'aimer le Seigneur, c'est garder la parole qui nous le dépeint. Et quand j'y plonge mes regards dans cette parole, je le découvre. Et c'est ce qui me permet de l'aimer de plus en plus. La plupart, vous avez un petit peu d'âge ce soir, donc vous êtes des privilégiés. J'imagine que lorsque vous étiez fiancé, vous vous êtes écrit. Non ? C'est pas vrai. Vous n'avez jamais reçu de lettre de votre fiancé ? Si, quand même. Bon. Moi, pendant 4 ans, j'ai écrit tous les jours à ma femme. J'avais 17 ans et je me suis marié à 21. Tous les jours. Et on a encore les boîtes à chaussures où il y a les lettres dedans. C'est vrai. Donc, voilà. On avait les lettres. Voilà, quand j'étais à l'armée, je recevais la lettre. Bon. Aujourd'hui, les jeunes, ils ne vont pas avoir cet avantage. Parce que eux, c'est par les textos. Et les textos, waouh! Ça disparaît, hein? Bon. Si quelqu'un m'aime, il garde ma parole. Parce que par sa parole, je le découvre. Je la lis, je la relis. La lettre de la fiancée, on la lit, on la relisait, voilà. En fin de compte, quand on est arrivé dans la région il y a 8 ans, on a retrouvé un peu ça, on en a ouvert 2 ou 3, on s'est dit, ouais, on a trouvé que c'était ridicule. Mais à l'époque, c'était tellement bon, hein. Voilà. Et la parole, on la lit, on la relit. Et là, on s'imprègne de celui que l'on aime. Et ça, c'est important. Que Dieu puisse nous aider. Alors, comme j'ai été bavard, on ne va pas parler de Sardes ce soir. Je tâcherai d'être un peu moins bavard demain, et on fera Sardes et Philadelphie. D'accord ? On prie le Seigneur, à moins que vous ayez une ou deux questions à me poser.